L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, avec la RTBF, avec Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui, la Belgique qui projette d'abaisser l'âge obligatoire de la scolarité à 16 ans. La France qui déplore le manque d'efficacité des forces de l'ordre pour maîtriser les casseurs lors des défilés du 1er mai. Et la Centrafrique qui vient de connaître un nouvel épisode de violence. Au programme également, on verra pourquoi certains Canadiens réclament des excuses au pape et la Suisse. Endeuillée, et plusieurs morts après une tempête en montagne. Voilà l'actualité francophone. Soyez les bienvenus. En Belgique, Nathalie De Vic, le 1er mai n'a pas rimé avec muguet dans les rangs politiques.
Pas vraiment, non. Même si le langage était fleuri, parfum nauséabond dans la bouche du président de la Fédération socialiste de Charleroi en Wallonie lors des traditionnels discours de la fête du travail. Pas si traditionnel que cela puisque le président en question, Éric Massin, s'est permis d'y traiter une bourgmestre libérale dans son giron de rosse et de salope, échaudée sans doute par l'approche des élections communales. Vu l'indignation générale, il a préféré démissionner après de plates excuses dans lesquelles il a déclaré ne pas comprendre ce qui lui était passé par la tête. Et il n'est pas le seul. La bourgmestre a d'ailleurs porté plainte.
En Afrique, Charlotte Hydrac, la République démocratique du Congo a perdu son ambassadeur belge.
Oui, Bruxelles a confirmé officiellement le rappel de son représentant à Kinshasa. En fait, Bertrand de Crombrueux avait déjà quitté la RDC en début d'année pour consultation. Là, ce départ est donc définitif. Rupture de confiance, avance des diplomates. Mais la Belgique, elle, invoque le contexte bilatéral. Comprenez la brouille diplomatique avec la RDC. Les relations se sont dégradées ces derniers mois entre Kinshasa et l'ancienne puissance coloniale. Ce rappel entraîne en tout cas une vacance à quelques mois d'échéance électorale. Cruciale au Congo.
Votre personnalité de la semaine en Suisse, Virginie Mater, c'est un aventurier contesté.
Il s'agit du navigateur franco-suisse Yvan Bourgnon qui a bravé les mers polaires pour relier le Pacifique à l'Atlantique en 70 jours. C'était l'été passé. Un environnement pour le moins hostile, traversé en solitaire et sans assistance. Mais cet exploit a été remis en cause cette semaine par deux témoignages publiés dans le très sérieux journal zurichois NZZ. Deux marins, un néerlandais et une allemande, affirment en effet avoir remorqué le catamaran d'Yvan Bourgnon sur une distance de 90 000 marins, soit environ 166 km. Ils disent également l'avoir hébergé durant 6 jours. Le navigateur aventurier, qui s'était très largement exprimé sur sa traversée à l'époque des faits, a contesté par voie de presse, mais il ne s'est toujours pas fait entendre sur ces récentes allégations.
Gros plan cette semaine en France sur deux pilotes d'avion, Benoît Micolon et José Benavente. Ils ont cassé leur tirelire, 130 000 euros pour financer l'achat d'un petit avion. Le Colibri, c'est son nom, est destiné à sauver des vies, car en l'air, les deux hommes vont pouvoir aider au repérage des canaux de migrants en perdition au large de la Libye, et donc offrir cet appui aérien qui fait cruellement défaut aux navires des ONG humanitaires déployées en Méditerranée. La Belgique, Nathalie De Vic, a donc envisagé d'abaisser l'âge obligatoire scolaire à 16 ans.
Une obligation qui s'étend actuellement de 6 à 18 ans et que certains gouvernements, à droite essentiellement, voudraient voir passer de 3 à 16 ans. Alors commencer l'école 3 ans plus tôt, ce qui est déjà le choix de nombreux parents, ne semble pas poser de problème. Par contre, l'idée de pouvoir la quitter dès 16 ans, soit 2 ans avant sa majorité, divise. Principal argument pour, trop de jeunes en décrochage scolaire finissent au chômage malgré une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. C'est ce que déplore le libéral Pierre-Yves Géolet.
En tant que ministre de l'Emploi et de l'Économie, j'ai l'objectif évidemment de faire diminuer le taux de chômage et de remettre davantage de jeunes et de moins jeunes sur le marché du travail. Mais nous devons aussi répondre aux besoins des entreprises. Aujourd'hui, les entreprises sont prêtes à engager. On est dans des perspectives de croissance, dans une bonne conjoncture économique. Et donc, à un moment donné, il faut relever aussi ce défi.
Un défi que la gauche, elle, place ailleurs. Pour la députée socialiste Caroline Désir, l'école doit d'abord former des citoyens avant de former des travailleurs. Pas question de larguer des jeunes de 16 ans dans la nature.
Ça a du sens d'accompagner ces élèves dans leur formation jusqu'à leur majorité, jusqu'au moment où ils deviendront des citoyens, jusqu'au moment où ils pourront exercer leur droit de vote. Et je dirais particulièrement, c'est important de les accompagner jusqu'à leur majorité dans un monde qui est de plus en plus complexe, que ce soit en termes d'insertion sur le marché du travail ou de manière beaucoup plus générale.
D'autant que le système actuel permet déjà, dès 16 ans, de sortir partiellement de la filière traditionnelle grâce à la formation en alternance, en entreprise. Mais le fond du problème, et là, tout le monde est d'accord, c'est la baisse de qualité de notre enseignement, des savoirs de base. Une réforme en profondeur a été initiée. Et là encore, le débat fait rage quant à la place à y réserver à l'apprentissage technique et professionnel.
En France, cette polémique après les manifestations syndicales du 1er mai, pouvait-on mieux encadrer les débordements lors des défilés de la fête du travail à Paris? Plus d'un millier de casseurs sont venus en découdre avec les forces de l'ordre et parmi eux, les Black Blocs, ces militants de la violence. Ils sont venus se mêler aux manifestants en cassant des devantures de magasins, en détériorant le mobilier urbain et les voitures. Polémique, car le phénomène était prévisible, attendu même par le préfet de police. Et cependant, les forces de l'ordre sont accusées de ne pas être suffisamment intervenues. Les casseurs ont donc réussi à perturber les défilés jusqu'à dévier le parcours initialement prévu. Cette violence autour des cortèges du 1er mai, c'est une situation que ne comprend pas le leader syndicaliste de la CGT en France, Philippe Martinez.
Ça fait, on peut dire, deux ans maintenant que ce genre de choses se passent. Ça fait deux ans qu'on alerte les différents préfets, les différents ministres de l'Intérieur. Je ne comprends pas que depuis deux ans, ça se passe toujours comme ça. Et ils sortent en noir avec des marteaux, des barres de fer, etc. Pourquoi nous, on le voit et qu'il ne se passe rien et que la manif d'après, ça recommence?
Parole de syndicaliste et en guise de réponse, le ministre français de l'Intérieur, Gérard Collomb, a reconnu que ses services avaient effectivement sous-estimé le nombre de perturbateurs attendus dans la capitale française et il a promis donc encore plus de forces de l'ordre lors des prochaines manifestations dans la capitale française. En Centrafrique, Charlotte Tidrac, encore des violences cette semaine à Bangui, la capitale, avec la crainte un instant de voir le conflit repartir sur des bases religieuses. Charlotte, pourquoi ne parvient-on pas à un apaisement durable dans ce pays ?
Alors effectivement, 24 morts, hein, au moins 170 blessés mardi. Il y a eu des réactions en chaîne à Bangui, des affrontements entre des forces de sécurité et des milices de quartier qui ont débordé dans une église en pleine cérémonie. Un prêtre a été tué dans la foulée. C'est une mosquée qui a été incendiée, deux musulmans lynchés. Mais le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, l'a martelé après une rencontre avec l'archevêque de Bangui. Ce conflit, dit-il, n'est pas confessionnel.
Je suis venu ici pour traduire mes condoléances à toute l'Église, à toutes les familles qui ont été victimes de cet acte de terrorisme, mais en même temps attirer l'attention des Centrafricains, ne pas tomber dans l'amalgame de chrétiens musulmans. Nous allons traquer les commanditaires, les auteurs de cela, et ils répondront tôt ou tard devant la justice de nos pays. Et vous verrez la vérité, parce que derrière ça, il y a des manipulations. Et
derrière ces manipulations, selon la présidence, il y a des hommes d'un groupe armé, en l'occurrence le FPRC qui menace d'attaquer Bangui. Des groupes armés qui restent très puissants en province. Les autorités administratives, par exemple, ne se déploient qu'avec leur consentement. Le processus de désarmement est pour l'instant bloqué. La mission de l'ONU, censée assurer la sécurité du pays, est débordée. Et puis, il y a l'impunité aussi. Les ONG demandent aux autorités d'envoyer un signal clair que les auteurs d'attaques contre les civils soient réellement sanctionnés.
Au Canada, la douloureuse question des pensionnats autochtones a refait surface dans l'actualité. Ces pensionnats, où on a envoyé des milliers de jeunes autochtones pendant des décennies, ils étaient gérés par des institutions catholiques. Or, Benoît Audet, des voix s'élèvent désormais pour réclamer des excuses et en haut lieu.
Oui, on demande au pape François de présenter lui-même officiellement des excuses de la part du Vatican. Donc, ce sont des autochtones qui ont été victimes de ces aux mains de prêtres catholiques qui réclament ce geste. Cette semaine, c'est le Parlement canadien qui les a appuyés en adoptant une motion par une forte majorité pour demander au pape d'agir. Le premier ministre Justin Trudeau a lui-même voté en faveur de la motion, tout comme 268 autres députés.
Oui, sauf que la hiérarchie de l'Église catholique n'est pas très chaude à l'idée de présenter des excuses officielles au peuple autochtone.
Non, il n'y a rien de formel pour le moment. Les évêques du Canada ont déjà fait savoir que le pape François n'offrira pas les excuses de l'Église. Pourtant, en 2009, le pape Benoît XVI avait offert ses excuses aux Irlandais qui avaient subi des agressions sexuelles aux mains de prêtres catholiques. En 2009, Benoît XVI toujours avait fait part de sa peine au sujet des pensionnats autochtones sans aller jusqu'à présenter des excuses formelles. Les plaies restent donc vives pour les Autochtones. Une commission de vérité et réconciliation qui s'est tenue au Canada avait même conclu que les pensionnats représentaient rien de moins qu'un génocide culturel.
En Suisse, c'est un drame dans les Alpes valaisannes qui a fait la une cette semaine, Virginie Mater.
Deux groupes d'alpinistes ont été pris dans une terrible tempête dimanche dernier au-dessus d'Arola en Valais. 14 personnes bloquées sur une arête à quelques centaines de mètres seulement d'un refuge. Des randonneurs, principalement des Italiens et des Français, ont donc passé la nuit dehors, exposés au vent et au froid à 3270 mètres d'altitude. L'alerte n'a été donnée que le lendemain matin. Une importante opération de secours a alors été déployée, mais le bilan est lourd. 7 personnes ont trouvé la mort, 6 d'entre elles ont succombé à l'hypothermie. Nos confrères italiens de la RAI ont pu recueillir le témoignage de l'un des rescapés. Cet architecte raconte comment la situation s'est dramatiquement dégradée.
On s'est perdu 4 ou 5 fois. J'ai pris la direction du groupe parce que j'étais le seul à avoir un GPS qui fonctionnait jusqu'à ce qu'on arrive à un point où on ne pouvait plus avancer parce que la visibilité ne le permettait plus. C'était une erreur parce qu'on ne s'arrête pas sur une arête quand il y a du vent. Il faut s'arrêter à un endroit protégé où on peut creuser un trou. Dans une situation comme celle-ci, si tu t'endors, c'est fini. L'hypothermie te guette et te tue, il faut bouger, respirer, bouger. Penser à ne pas mourir, chaque fois que j'envisageais de me laisser mourir, je pensais à ma femme.
Après ce drame, de nombreuses questions se sont posées. Pourquoi l'alerte n'a-t-elle été donnée que le lendemain matin par le gardien de la cabane? Le guide retrouvé mort avait-il laissé son groupe livré à lui-même? Les premiers éléments de l'enquête ont montré qu'il a tout simplement décroché.
Voilà donc pour l'actualité francophone de la semaine. Merci à tous les contributeurs de Suisse, du Canada, d'Afrique, de Belgique et de France. Le prochain rendez-vous, ce sera la semaine prochaine, au même endroit et à la même heure.